Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Les commandes politiques ont-elles encore cours au ministère des Transports? En tout cas, c'est ce que laisse penser l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec qui intervenait en commission parlementaire la semaine passée. On en discute avec Sylvain Gaudreau, député péquiste de Jonquière. Bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Et ancien ministre des Transports, donc vous en faisiez des commandes politiques dans le temps?
Ben non, moi justement, je voulais mettre fin à cette pratique. Une des choses, moi, qui m'avait le plus marqué comme ministre des Transports, à un moment donné, je reçois un briefing par des sous-ministres et des directeurs. Puis là, ils me présentent des tableaux avec les projets routiers qui étaient priorisés, le coût, ce que ça demande comme travaux, etc. La dernière colonne du tableau, c'était les circonscriptions électorales.
Ah oui?
Alors, ouais. Ben là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que ça fait là? J'ai pas besoin de savoir ça. Jamais on prend une décision en fonction de ça. Là. C'est rare qu'on voit ça. Là. Tu sais, j'ai dit, non, vous allez m'enlever cette colonne-là. Là. Alors, c'est. Puis je veux pas dire que c'était une commande des sous-ministres, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça amène un biais, c'est sûr, là, dans l'analyse. Pour moi, c'est une anecdote qui démontre ça.
OK, mais là, croyez-vous vraiment que sous le gouvernement de la CAQ, ça se fait, ça, des commandes politiques?
Ben, selon ce qu'on en comprend, par exemple, dans les témoignages, moi, hier, j'ai été renversé. J'ai été une première fois renversé jeudi après-midi dernier, quand on a eu les auditions sur le projet de loi 60 qui vise à réformer l'embauche puis le processus d'embauche dans la fonction publique. On a eu un témoignage à toute fin là, de l'Association des ingénieurs du gouvernement. Puis là, c'était bing-bang. Ils ont parlé de pression politique. Mais là, hier, deuxième fois que je suis renversé, il y a eu aussi, il y a eu des ajouts là et des gens qui disent, écoutez, moi je vous parle, mais je veux rester anonyme, j'ai peur de représailles. Ce sont des ingénieurs du gouvernement et qui en ajoutent et qui donnent des exemples.
Qui donnent des exemples, c'est ça l'affaire, hein? C'est dans les papiers de Patrice Bergeron, oui.
Oui, puis c'est on dirait que c'est un retour dans le temps de Duplessis, là. Tu sais, un ponceau dans le bois. Un chemin forestier, en tout cas un ponceau, un petit pont payé par le MTQ. Puis le seul utilisateur de ce chemin, c'est un riche homme d'affaires, entre guillemets, c'est ce qu'on apprend, qui a une pourvoirie.
À quel endroit, ça?
Ben c'est ça, on le sait pas. C'est un cas qui a été nommé dans l'article, mais évidemment, la personne ne veut pas, a pas nommé l'endroit précis. Autre affaire, un pont qui était désuet, et qu'ils l'ont fermé pour des raisons de sécurité. Et il y a un autre pont pas loin qui fait la job, semble-t-il, mais un élu, on ne sait pas qui, est-ce que c'est un élu municipal ou un député, aurait fait des pressions pour réparer l'ancien pont, même si l'autre pont pas loin fait le travail. Donc là, le MTQ a réparé le vieux pont, l'entretien, etc. Donc, c'est justement le genre de choses.
On est dans le flou pas mal quand même. Là. On ne sait pas si c'est les gens de la Coalition Avenir Québec ou ça remonte à plusieurs années.
Exact, on ne le sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est que ça fait... Ça fait deux ans que ce gouvernement est aux commandes et il n'y a pas eu de changement en profondeur au MTQ. Et les ingénieurs de l'Association des ingénieurs du gouvernement ont dit que ça se faisait encore de la pression.
Oui, c'est ça. Sauf que là, depuis qu'ils ont dit ça jeudi dernier, on dirait qu'ils essaient de nuancer leurs propos. Ils ont affirmé, par exemple, que Sonia Lebel et François Bonnardel, donc le ministre des Transports et la présidente du Conseil du Trésor, sont les bonnes personnes aux bons endroits. Ça, est-ce que ça vous rassure?
Ça paraît pas. Parce que souvenez-vous que Sonia Lebel était quand même la vedette là, de la commission Charbonneau comme procureur.
Mm-hmm.
Et quand
procureur en chef, oui.
Procureur en chef, exactement. Puis quand M. Legault est allé la recruter comme candidate, c'était vraiment la Madame Intégrité, avec tout son bagage, sa notoriété comme procureur en chef de la commission Charbonneau.
Oui.
Et là, elle est aux commandes. Là. Elle est présidente du Conseil du Trésor. Elle siège autour de la table du Conseil des ministres. Alors que, avec ces témoignages que nous avons, sous le sceau de la confidentialité, parce que les ingénieurs auraient peur de représailles, déjà là, il y a un problème. Ben, on apprend que finalement, il n'y a rien de changé depuis la commission Charbonneau. Moi, si j'étais
Sonia Lebel... Ah oui, ça, vous l'affirmez, il n'y a rien de changé depuis la commission Charbonneau?
Ben, s'il y a des pressions politiques aussi fortes, selon ce que nous disent les ingénieurs qui parlent sous le couvert de l'anonymat, comment je pourrais dire? Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé, mais ça demeure quand même un gros problème. Là, ça a peut-être pris des tournures un peu plus subtiles là, sur les pressions politiques. Alors évidemment, pour moi, ça m'apparaît inacceptable.
Vous qui avez été dans ce fauteuil-là du ministre, comment ça peut se faire des pressions politiques? Est-ce que c'est les députés dans leur coin? Est-ce que c'est les députés qui viennent voir leur ministre pour avoir un bout de terrain? Et comment ça peut se faire? On l'a vu un peu à la commission Charbonneau. Là, on a beaucoup parlé de Guy Chevrette dans le temps, puis sa fameuse route qui sert à rien. Là. Mais oui, allez-y.
Ouais, mais je veux pas cibler personne en particulier. Parfois, ça peut se faire de façon assez subtil. Moi, je pense que derrière ça, il y a une culture aussi comment je pourrais dire, de la coupure du ruban, tu sais.
Ah oui.
Pour dire, bon, ben, si on inaugure une nouvelle route, tu sais, c'est bon pour une région, c'est bon dans l'opinion publique, tout ça relève de cette société de l'automobile, là, où on veut avoir des routes, couper des rubans, donc on a de la pression pour dire, ben là, moi, dans mon comté ou dans ma ville, ça serait populaire, ça serait important. Alors que les décisions qu'on doit prendre, comme gouvernement, comme État moderne, qui veut bien gérer les finances publiques, mais qui veut aussi avoir des infrastructures de qualité, c'est d'y aller selon les priorités. Par exemple, la fluidité du transport, la sécurité, les zones désenclavées, par exemple, des zones qui peuvent être isolées, etc. Donc, c'est ça qui doit primer la réalisation des travaux routiers et non pas dire, bon, ben là, on a un projet qui sera peut-être plus prioritaire pour la sécurité, mais on va en faire un autre ailleurs parce que on a un petit peu plus de pression politique. Alors, c'est ça qui est le problème.
Récemment, on apprenait aussi, là, c'est Nicolas Lachance du bureau d'enquête qui écrivait là-dessus, que la division des enquêtes au MTQ était en crise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le MTQ actuellement, selon vous?
Ce que j'ai compris de cet article que j'ai lu également, c'est qu'il y a... Il manque d'enquêteurs. Il y a eu une diminution du nombre d'enquêteurs au sein du ministère. Et ces enquêteurs-là sont sur le territoire, peuvent être associés, par exemple, à des divisions, des directions plutôt territoriales dans les régions du Québec. Première chose à faire, c'est que le ministère, à l'intérieur même de sa machine, se dote des outils puis du personnel pour faire les propres enquêtes à l'interne. Si tu n'as même pas ton chien de garde à l'interne, ben ça va mal. Là. Mm-hmm. Donc, ce que je constate, puis ça, quand on dit Bonnardel est à la bonne place, ben je regrette, mais la diminution du nombre d'enquêteurs, là, c'est présentement, là, c'est là, c'est depuis les deux dernières années. Donc, il devrait immédiatement là rehausser le nombre d'enquêteurs au sein du ministère. C'est un premier geste à faire.
Donc, rehausser le nombre d'enquêteurs, puis pour ce qui est des ingénieurs, quoi, l'expertise doit être aussi renforcée au sein du ministère. Mais c'est dans le discours de M. Bonnardel, ça, de renforcer l'expertise. Est-ce qu'il manque de réalisation de ce côté-là?
Ben, visiblement, les ingénieurs qui sont venus nous rencontrer en commission parlementaire mm-hmm. disent que c'est insuffisant. Puis que le problème, c'est l'expertise et la rétention de ces ingénieurs au sein de la machine.
Ouais.
Parce que, est-ce qu'on veut que le MTQ soit simplement une rampe de lancement pour de jeunes ingénieurs qui, après ça, vont se faire recruter par des grandes firmes qui auront beaucoup plus de moyens pour payer, par exemple. Alors, si on veut avoir une fonction publique puis un État qui est fort, qui a une expertise, ben il faut qu'on soit attirant aussi. Mm-hmm. Alors là, on fait face à des ingénieurs qui sont des professionnels, qui ont étudié de nombreuses années, qui sont des spécialistes, puis on n'a pas de mandat intéressant ou on n'a pas de conditions intéressantes. Tu sais, les conditions dans la fonction publique, ça peut prendre différentes formes. L'avantage, par exemple, c'est qu'on peut avoir une stabilité, on peut avoir, par exemple, une certaine mobilité sur le territoire, on peut avoir aussi une sécurité d'emploi, un régime de pension, un régime de retraite, ça, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne doit pas donner aussi, être un peu plus concurrentiel pour éviter de perdre une expertise puis de se retrouver toujours à reconstruire une expertise? J'ai rien contre les jeunes ingénieurs, mais il faut être capable de les garder. Ouais.
Vous militez depuis longtemps pour qu'on transforme le ministère en agence. Qu'est-ce que ça changerait pour ces deux aspects-là, l'aspect de la rétention des ingénieurs, l'expertise, puis les enquêtes?
Ouais, ben puis la dépolitisation, c'est surtout ça. Alors, une agence indépendante, ça serait toujours à l'intérieur de la grande machine de l'État, un peu comme l'Agence du revenu, mais il serait hors fonction publique, donc beaucoup plus d'autonomie pour aller recruter justement des ingénieurs et être capable de les garder. Puis ensuite, il y aurait un mur de Chine ou un mur de Berlin, là, tout dépendant de ce qu'on préfère, entre la gestion des travaux routiers en fonction des priorités et les intérêts ou les préoccupations politiques. Autrement dit, le politique dit, puis c'est normal, on vote pour ça en démocratie, le politique dirait, bon ben, cette année, on va investir tant dans les routes, on va investir tant dans le transport collectif, on va investir tant, disons, dans le maintien des actifs, dans l'entretien. Ça, c'est les grandes orientations d'un gouvernement là, d'une couleur à l'autre, puis on fait un débat là-dessus au niveau électoral. Mais une fois qu'on a fait les grandes tendances, les grandes préoccupations, les grandes priorités de l'État, on remet ça à l'agence, qui, elle, après ça, va dire, bon, ben là, en fonction, par exemple, justement...
Mais il y aurait beaucoup de politique pareil, mais est-ce qu'elle serait pas plus cachée? C'est ça qui arrive des fois quand on dépolitise, non?
Il y aurait une reddition de compte auprès de l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports serait toujours présent. Il devrait être député.
Mais la meilleure reddition de compte, est-ce que c'est pas quand on a des élus? Tu sais, je pense au DPCP récemment, on parlait de ça, on a dépolitisé cette fonction là, de poursuivre. Mais en même temps, ce serait bien là, qu'il y ait un élu qui s'explique sur l'affaire Camara, par exemple.
Oui, mais ça n'empêche pas ça.
Est-ce que la dépolitisation, ça n'amène pas une déresponsabilisation des élus? Puis finalement, dépolitisation, ça fait en sorte que nos élus ne servent plus à rien. Pourquoi aller voter?
Non. Les élus demeurent importants, mais l'enjeu, c'est de professionnaliser la réalisation des travaux routiers et d'y aller selon les véritables priorités. L'élu est toujours a toujours une reddition de compte à faire, mais on va cesser de faire en sorte qu'un élu va décider entre deux projets de route. Là, je veux dire, il faut avoir des critères un peu plus objectifs. Vous savez que il y a beaucoup de pays scandinaves, en tout le moins la Suède, qui fonctionne beaucoup en forme d'agence.
Ouais.
Mais pourtant, il y a une reddition de compte devant la population suédoise. Et autrement dit, il faut que les élus fassent leur rôle d'élu.
Ben oui.
Mon rôle à moi comme député, c'est pas de dire que telle route est prioritaire plus qu'une autre. Mon rôle, c'est de dire, on va avoir une saine gestion des fonctions des fonds publics, on va s'assurer d'une reddition de compte, on va mettre plus d'argent cette année, disons, dans le transport collectif, puis un petit peu moins dans les routes.
Est-ce que ça va être dans la plateforme électorale du Parti québécois en 2022, l'agence?
Ah, mais là, écoutez, on va avoir notre congrès cette année, puis éventuellement la rédaction de la plateforme. Okay. C'est sûr que moi, je milite beaucoup pour ça.
Ça y était pas en 2018, hein?
Puis, en 2018, oui, il me semble qu'on parlait d'agence déjà en 2018. En tout cas, on en a parlé en 2014.
Oui, c'est ça, avant, mais pas...
J'ai déposé le projet de loi en 2014. En 2018, sauf erreur, on en a reparlé, effectivement, de l'agence des transports.
Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, merci beaucoup pour cet entretien.
Ben, ça me fait plaisir, Antoine, au revoir.
Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, là. Et je vous dis à demain.